répondre.
Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une séance qui va être consacrée à Barthes, Bernard Faucon et la photographie, présentée par Pierre Eugène, qui est doctorant à l'université d'Amiens, de Picardie, sous la direction d'Hervé Joubert-Laurencin, qui participe, qui travaille avec Hervé Joubert-Laurencin, qui participe notamment à l'édition des œuvres de Bazin en ce moment, qui écrit pour Art Press, qui donc va présenter aujourd'hui une conférence sur les rapports de Barthes avec la photographie et en particulier avec Bernard Faucon. Donc je lui laisse la parole pour une heure à peu près.
Oui, peut-être un petit peu plus, une heure.
Oui.
Je n'ai pas calculé exactement, mais je vais essayer de ne pas dépasser.
Non, tu peux dépasser.
Mais de toute façon, l'idée est quand même qu'on parle, donc qu'on échange. Alors, déjà, avant toute chose, merci. Marie, merci Eric de m'avoir invité ici. Et puis, en guise de préambule, je vais simplement... je suis content d'intervenir ce soir. Je suis heureux d'intervenir aujourd'hui pour trois raisons que je vais vous expliquer. Bon, déjà, je suis content de vagabonder un peu hors de ma spécialité qui est aussi une espèce de spatialité, quoi, une place à laquelle la tradition académique nous assigne confusément. Et ma spécialité étant le cinéma, et un cinéma que Barthes goûtait assez peu, puisque c'est un cinéma de cinéphile, je suis content de parler aussi d'autre chose, de photographie et de Barthes. Je suis aussi heureux de parler pour une seconde raison, parce que je vais aujourd'hui vous montrer l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Bernard Faucon. Ici, j'ai amené un gros livre avec, où il y a tout. Je vais vous montrer des images... etc. Et qui est un ami très cher, un ami que je connais depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, et qui est aussi un compagnon de travail, puisque nous montons en ce moment, nous avons un projet justement de film ensemble, et un film biographique qui pour l'instant fait à peu près plus d'une dizaine d'heures. Bernard, qui avait été au départ invité à ma place, enfin c'était lui qui était plutôt invité que moi, ma présence ici est une des raisons de sa réticence à ne pas venir. C'est déjà quelqu'un d'un peu, je dirais pas farouche, mais qui a un désir quand même de non vouloir saisir à son égard, je dirais. Et s'il est pas là aujourd'hui, je pense que c'est aussi par peur d'ennuyer, par peur de s'ennuyer aussi en répétant des phrases déjà dites sur son travail, des anecdotes qui tourneraient vite court. Hein. Sa relation avec Barthes fut des plus minces, je vais vous la décrire, ça tient en quelques phrases. Et peut-être aussi, je dirais, d'être rattrapé, lui qui n'est pas du tout dans la vie, par une espèce de nostalgie de l'évocation de ce travail qui a été, qui s'est terminé, et qui le renverrait dans les limbes qui constituent son histoire. Donc je suis donc là, en quelque sorte, comme le représentant de Bernard Faucon, même si j'assume, pour ma part, un regard tout à fait subjectif, partiel, sur son œuvre et ses gestes d'artiste, et si, comme tout ami, je ne compose qu'avec des parts fragmentaires de sa biographie. Enfin, je suis heureux de cette invitation parce que Barthes est le premier auteur d'essais que j'ai lu et relu ponctuellement depuis la fin de mon adolescence, et qu'il fait partie de ces auteurs chéris qui viennent toujours se rappeler à nous, en insistant quand on les oublie un peu trop. Mon attachement à Barthes, c'est bizarrement ce que je retrouve à chaque fois que je le lis ou que je le relis, n'est pas tant intellectuel. Les recherches et les domaines traités par Barthes sont souvent très éloignés des miens. Ils ne peuvent pas me servir. Mais il n'est pas non plus simplement littéraire, au sens où je le lirais pour me faire plaisir, comme un roman. Il y a de ça, mais c'est autre chose. Barthes a constitue pour moi, et je sais que Jean-Louis Schaeffer, qui va venir à la prochaine séance, détaillera peut-être quelque chose de ce genre, puisqu'il a rencontré Barthes adolescent. Barthes a représenté pour moi quelque chose comme un modèle stylistique, au sens large, c'est-à-dire une identification à des sortes d'inflexions, de modalités particulières dans la vie et dans l'écriture, mêlées. Barthes a quelque chose de non-intimidant, de volontairement délicat dans sa manière d'aborder les choses, surtout à partir des années 70, qui fait qu'on ne peut que s'en sentir proche. J'ai trouvé cette phrase qu'il dit et qui me semble absolument juste par rapport à lui-même, « Je cherche une écriture qui ne paralyse pas l'autre et en même temps qui ne soit pas familière. » C'est là toute la difficulté. c'est dans un entretien avec Bernard-Henri Lévy, en 1977. Or, il se trouve par ailleurs que mon ami Bernard Faucon, sur des points tout à fait différents, je dirais sa générosité, une manière d'organiser perpétuellement des échanges, sa manière de disposer, d'organiser les choses, de recevoir ses amis, est également lui qui a arrêté son œuvre photographique en 1995, une des personnes que je connaisse qui soit le plus dans la vie, je dirais presque qu'il ne vit que pour vivre et pour faire vivre les autres. Ce point n'est pas simplement anecdotique, mais essentiel pour comprendre son œuvre, qui est à mon sens une part de la vie incidentelle, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Barthes. L'art chez Bernard Faucon est la continuité, le développement de quelque chose de profondément vécu. En ce sens, parler de biographie en regard des photos serait une erreur, je crois. Ce n'est pas la photographie comme documentation ou volonté d'exhaustion de la vie vécue, mais plutôt une puissance qui s'exprime à un moment parce qu'elle le peut, parce qu'elle le trouve une nécessité. Il me semble que Bernard Faucon ne s'est jamais départi de cette sorte de nécessité dans son travail, ce qui lui donne à la fois une grande cohérence sérielle à ce travail, une grande intensité, et en même temps explique que cette œuvre photographique puisse finir et réellement finir. Bernard Faucon étant un des rares exemples, personnellement je n'en connais pas d'autres, de quelqu'un qui a décidé de clore un travail artistique à un moment donné et assumer formellement cette fermeture. Mon souhait étant aussi que cet exposé vous permette de voir cette œuvre et de l'apprécier. Voilà, alors je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est plutôt comme amateur que je vais parler ici. Je suis loin de posséder le savoir que vous tous avez de Barthes et je ne suis pas par ailleurs bien connaisseur de l'histoire de la photographie. En amateur aussi, j'ai relu les textes de Barthes sur la photographie dans une optique un peu précise qui concerne l'œuvre de Bernard Faucon et la question ontologique, et dans le souhait de les faire dialoguer devant vous et avec vous. Comme nous sommes dans le cadre moins contraignant qu'une conférence, je vous prie de m'interrompre à tout moment pour justement que cet exposé prenne la forme d'un dialogue, si vous le souhaitez, mais on peut aussi en parler après. Donc, je vous propose le déroulement suivant. Je vais commencer par vous présenter l'œuvre de Bernard Faucon, pas trop longuement, je vais vous montrer des images et commenter rapidement. Puis je vais tenter de trouver quelques bonnes raisons affinitaires à Barthes en revenant sur sa manière singulière de parler et de penser la photographie. Enfin, j'aimerais que nous nous interrogions sur une question qui est la suivante. Pourquoi l'œuvre de Bernard Faucon n'est-elle pas présente dans la chambre claire? Alors même que d'autres photographes, pas tous cependant, sur lesquels Barthes avait pu écrire précédemment, s'y retrouvent diversement mis en page, si je puis dire. Donc pour vous présenter Bernard Faucon, il est né en 1950, il est évidemment toujours vivant. Il grandit sur une colline à côté du village d'Apte, dans le Luberon, en Provence, dans un endroit qui s'appelle Saint-Marcian. C'est une colline qui jouxte le village d'Apte. Sa mère est la fille de Joseph Bernard, 1908-1973, faïencier à Apte. Des faïences d'un type particulier, et Joseph Bernard est quelqu'un qui va retrouver le secret des terres flammées, qui sont des terres mélangées, qui ont l'aspect de flamèche, ce qui va assurer à sa société, sa petite usine de faïence, pas mal de succès, et notamment il va beaucoup en fabriquer pour le roi du Maroc, Hassan II, ce qui poussera la famille à voyager au Maroc. Et il va fonder là-bas l'Académie royale de céramique de Rabat. Le père de Bernard vient d'une famille tout aussi artiste, mais d'une autre manière. Sa mère, donc la grand-mère que Bernard appellera Tatier, est celle qui lui offre son premier appareil photo, un petit 6-6 de marque Semflex, aux alentours de ses 16 ans, et lui transmet, outre des rudiments d'art, un art de vivre non conformiste. Donc, je vais éteindre les lumières. Donc je vais vous montrer les premières photos que Bernard appelle le temps d'avant, qui sont faites entre 66 et 70, qui sont vraiment l'avant de sa carrière photographique. Hein. Donc avant Bernard a commencé à faire de la photo donc en amateur, hein, mais il a eu une vraie prédilection pour la peinture et pour aussi des espèces de boîtes comme ça, où il y avait des collages, des, Là, c'est une photo qui répertorie un petit peu toutes ces boîtes. La plupart ont disparu aujourd'hui, ont été données ou vendues, mais c'est plutôt des travaux d'adolescents à l'époque. Et la photo était pour lui absolument pas un médium noble, hein. C'était quelque chose qui était beaucoup trop simple, qui lui semblait beaucoup trop simple et beaucoup moins intéressant que la peinture. Par exemple, voilà une des peintures qu'il pouvait faire à l'époque, qui est à la fois assez naïve, qui joue beaucoup sur la couleur aussi, des espèces de mondes comme ça, un peu parallèles. Et ça, ce sont les premières photos. Donc vraiment, voilà Bernard aux alentours de ses 16, 16, 17 ans. L'évier de Tatier. Donc le 6-6, hein, c'est ce format carré du Hasselblad, de ces petits appareils qui en général ont deux objectifs, donc on regarde d'en haut. Et Bernard va toujours faire des photos pendant à peu près toute sa carrière photographique, sauf la dernière série de son travail qui s'appelle La fin de l'image, qui aura un autre format. Et dans ce format 6-6, avec une pellicule qui est le Kodachrome, qui est une pellicule développée par Kodak et qui est une pellicule inversible, c'est-à-dire qu'elle est directement et positive. Hein, c'est pas des négatifs, il va pas faire de photos en noir et blanc, il va développer ses premières photos, même sa première série qui est la plus connue, qui s'appelle Les Grandes Vacances, va être développée à Apt sur place chez le développeur photo d'Apt. Donc on n'est pas du tout au départ dans une optique comme ça, un peu professionnelle d'artiste. Donc ça, de toute façon, c'est les photos d'adolescents, mais là, il me semble qu'il y a quelque chose un petit peu de Vermeer. Enfin, ça c'est donc Bernard a deux frères, ça c'est deux frères plus jeunes, Jean et Pierre, ça c'est Pierre en photo. Ça c'est encore Pierre. Ça c'est Tatier, sa grand-mère. Encore Pierre. Le bouquet de Tatier. La cloche. Donc les parents de Bernard ouvrent au milieu des années 60 une colonie de vacances qui va accueillir tous les étés pendant plus d'une trentaine d'années un certain nombre de pensionnaires des environs, des enfants et des adolescents de la région. Bernard et ses trois frères vont participer à la vie de la colonie pendant plusieurs années. Un des frères de Bernard, Jean, va reprendre l'atelier de faïence et va lui donner encore une autre direction artistique. Et Pierre va vivre un peu à la marge aussi de cette vie familiale du Luberon. Donc là, vous voyez justement des enfants de la colonie. Donc ça, par exemple, ce décor-là qui est la chambre de Bernard, hein, la photo s'appelle Ma chambre. Bon, c'est des photos dont il a donné des titres plus tard, évidemment. Cette manière d'accrocher les objets, de disposer, c'est quelque chose qui est très présent en tant que dans sa vie à lui, quoi, hein, qui vient aussi de sa grand-mère, de ses parents, qui est quelque chose qui est lié à son mode de vie, mais qui après va du coup s'inscrire aussi dans la manière dont il fait de la photo plus tard. Évidemment, ça ne rend pas extrêmement bien avec le vidéoprojecteur, mais ça, c'est un jour d'orage. Non, mais c'est pas grave. Attends, je vais fermer. Donc Bernard fait des photos quand il est adolescent, mais il est surtout intéressé par la peinture. Et à un moment d'adolescence, de grande dérection intime, il se lie avec un professeur de Cagnes qui s'appelle Henri Kerner, qui est lui-même très lié au théologien catholique Jacques Maritain. Pour Bernard, c'est une révélation et une passion. Il s'intéresse très très vivement à la théologie. Et va même commencer des études de théologie alors que la France est en pleine effervescence de mai 68. Il continue la peinture, rencontre Maritain, travaille sur son œuvre, Et puis finalement, il se décide à abandonner la théologie, monte à Paris, et en 74, une maîtrise de philosophie en poche, il décide de garder. Il commence à gagner sa vie, et pour ça, il récupère des mannequins en bois, en cire, dans des magasins, dans des remises de magasins, dans des greniers de grands magasins, un peu partout en France, et il les revend aux puces. Puis il décide peu à peu de garder les mannequins les plus beaux. Et puis chaque été, comme il remonte à la colonie, finalement, il décide de les photographier. Donc ça va donner la première série de son œuvre, qui s'appelle Les Grandes Vacances. Donc, où il va mettre en scène quelques-uns de ses mannequins. Donc, et c'est au printemps 76 qu'il commence vraiment au milieu, comme ça, de la vie de la colonie, à réaliser des mises en scène photographiques. Alors, lui a tendance à dire qu'il est un des premiers photographes à faire de la mise en scène photographique. Moi, ne connaissant pas extrêmement bien l'histoire de la photo, en tout cas, je dirais qu'il est, il est dans les premiers, en tout cas, à l'assumer d'une manière parfaitement franche, en tout cas. Et il va construire des photos qui vont intéresser beaucoup Barthes, parce que Barthes les assimile à des tableaux vivants. Je vais revenir après un peu sur la manière dont Barthes les considère. Mais voilà, cette série qui va se poursuivre jusqu'en 1981 est la seule série que Barthes a connue, hein, puisque Barthes décède en 81. Et il y a d'autres séries de Bernard qui auraient pu intéresser Barthes, je pense. On aura l'occasion d'en reparler après. Mais effectivement, voilà, il y a quelque chose qui va beaucoup surprendre Barthes. Donc Bernard fait sa première exposition dans une galerie parisienne qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Lop Lop à ce moment-là, qui durera que quelques années. Voilà, c'est un petit vernissage, une petite reconnaissance, mais qui va vite lui assurer une sorte de célébrité. Il édite à cette occasion un petit album bleu et il l'envoie à Barthes, ayant lu les fragments d'un discours amoureux. Barthes le remercie et lui envoie une lettre, le 12 mai 1977, lettre qui est reproduite dans l'album Barthes, page 252, où il lui dit, en substance, « Vos photos sont merveilleuses. Pour moi, c'est ontologiquement, si vous me permettez ce mot pédant, la photo même, dans la limite qui en dit l'être, la fascination. Merci. » Donc là, vous voyez une photo qui s'appelle « Pour l'écureuil ». Donc les photos de Bernard ont des titres qui sont relativement simples, très peu symboliques, très peu métaphoriques, et qui en général reprennent un des éléments de la photo. Donc voilà, toute cette série des mannequins va mettre en scène donc ces mannequins habillés, figés dans des postures particulières, et parfois quelques vrais enfants qui viennent s'inscrire dans l'image. Là, par exemple, la photo s'appelle Pierre Faucon, donc c'est le pyjama de son frère, mais c'est un mannequin. Ça, bleu-blanc. La bataille de boules de neige. Bleu d'écume. Carnaval, le champ de bataille, chez Tatier, collation, crémation, tête brisée, crépuscule neige, dans le train, diablo menthe, sieste après un festin de melon, Gulliver, jeu d'approche, jeu de plage, l'arrivée, l'avion, l'enfant qui vole. J'aime beaucoup cette photo avec cette espèce de suspension très, très étrange. Alors les photos sont imprimées sur un papier, c'est quelque chose auquel tient beaucoup Bernard et qui leur assure une matérialité, alors là, qu'on ne peut pas voir parce qu'en plus évidemment c'est des scans de négatifs et pas des photos de photos. Mais les photos sont tirées sur un papier photo mat toujours. Hein, même les livres que Bernard va publier sont mat, eux aussi. Et à l'époque, il n'existe qu'un seul procédé mat pour la couleur, pour l'inversible, qui est le procédé Fresson, qui est un procédé très particulier, développé à la fin du 19e siècle, en 1899. C'est une famille, hein, c'est le grand-père de l'homme actuel, déjà assez âgé, qui s'occupe encore de tirer ce procédé. C'est un procédé vraiment assez particulier, qui est à la fois très technique et qui demande une certaine dextérité, parce qu'il faut faire quatre passages de couleurs, c'est de la quadricromie, donc il faut vraiment extrêmement bien positionner à la fois le papier, les bains de développement, etc. Et ça donne, alors c'est un tirage qui en fait donne un peu de flou à l'image. Hein, ce qui est l'inverse d'un tirage sur papier brillant où les contours ressortiraient très nettement, très cru. Il y a une espèce de douceur de l'image, presque parfois de voile. Les couleurs sont pas forcément toujours très, très 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 brillantes. Et il s'avère que assez récemment, Bernard a entrepris de faire des nouveaux tirages de ses photographies, considérant que le procédé Fresson la personne qui s'en occupe actuellement n'arrive plus bien à tirer les photos, elles sont trop pâles, elles sont pas assez, soit trop denses, soit pas assez. Il considère que l'héritier du procédé ne l'a plus en main, si vous voulez, et il a fait des tirages sur papier ultra brillants. Et ça métamorphose complètement les photos, parce que des détails complètement matériels qu'on n'avait pas vus à l'époque. Notamment, par exemple, ici, on ne voit pas bien, mais il y a le visage, ici, du mannequin qui est là, qui se reflète dans l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit absolument pas sur un Fresson. Mais on le voit, par contre, quand on tire les photos sur papier ultra brillant. Et donc, ça change complètement la perception des photos. Mais du coup, ce procédé Fresson implique aussi une espèce de platitude de l'image, plus grande. Je continue. L'île en feu, la balançoire, la comète, ces effets pyrotechniques, Bernard en mettra de plus en plus dans ses photos, surtout dans des séries postérieures. La neige qui brûle, le banquet, le bouquet de roses. Vous voyez, il y a aussi souvent un jeu sur le flou du premier plan qui a tendance à renvoyer les scènes à des plans intermédiaires. Le champ de lavande. Donc toutes ces photos sont prises à Saint-Marcian ou dans les environs de Saint-Marcian, hein, toujours dans ce même endroit du Luberon. C'est une photo qui s'appelle Le Coffre. Dans la maison familiale, hein, qui est une assez grande maison, et puis il y a une très grande colline, c'est un grand domaine justement, avec beaucoup d'endroits très différents, des champs de lavande, des rochers, des falaises, etc. Comme c'est une région assez accidentée. Celle-ci s'appelle Le Filet, Le Funambule, Le Gibet, Le Goûter des Rois, Le joueur de flûte, le navire, le petit déjeuner, le rameau, la sieste du vrai et du faux. C'est une des rares photos qui énonce quelque chose, justement sur ce, ce rapport entre les mannequins et les vrais corps, les amis, les papiers qui volent, c'est une des photos les plus célèbres, les raisins, les torches, la photo de famille, retour d'école, ronde de nuit, ronde du soir, et en Méhari. Donc, après la lettre de Barthes, Bernard et Barthes vont correspondre un petit peu. Ils vont se voir 2-3 fois. Barthes lui offre notamment un cigare, et c'est une période où Bernard Faucon a tendance à mettre dans des enveloppes ce qu'il appellera plus tard des punctum amoureux, ou des petites choses comme ça de la vie. Donc il va enfermer ce fameux cigare dans une enveloppe notamment. Et à un moment, Bernard a l'opportunité d'avoir un article dans Zoom, une revue de photographie. Il contacte Barthes et lui demande si Barthes ne voudrait pas écrire un article sur son œuvre. Ce que Barthes tarde un peu à faire, mais il finit par le faire, et l'article sort l'année d'après. Je ne sais plus exactement quand. Je vais dire ça. L'article sort en octobre 78. Voilà. Il s'appelle Bernard Faucon. Il se retrouve à New York un jour où alors là, vous confirmerez, mais Barthes est invité par, d'après ce que j'ai retrouvé, Tom Bishop et Richard Howard, en même temps que Gérard Genette. Et il y a une fête en l'honneur de Barthes, et Barthes invite Bernard avec son ami Jean-Claude Larieux, qui est un peu le complice de ses photographies, puisque Jean-Claude Larieux est chef opérateur. Donc il va aider un petit peu, il va assister techniquement Bernard. Il faut savoir que ces photos sont faites comme une continuité des fêtes ou de toute l'animation qui se produit dans le Luberon. Elles sont pas, ce n'est pas Bernard qui arrive comme ça dans ces paysages et qui décide d'entreprendre un travail photographique. C'est plutôt, ça se déploie plutôt comme un jeu, et dans lequel tout le monde participe, hein, un certain nombre de personnes participent. Bernard étant le maître d'œuvre, place les mannequins, a l'idée des scènes, etc. Mais c'est quand même une photo quand même qui est fabriquée collectivement. Et qui est fabriqué avec des gens avec lesquels il vit tout l'été. C'est pour ça que la série s'appelle Les Grandes Vacances, parce qu'il y a justement aussi cette envie de ce climat assez festif, assez léger dans le temps ouvert des Grandes Vacances. Et donc toutes les photos sont disposées, sont fabriquées comme ça sur le moment, et après elles sont entièrement démantelées, détruites, une fois la photo faite. Même pas quand la photo est développée, hein, une fois que il prend une ou deux poses, et puis on détruit tout, et il n'y a plus de traces, hein, de la photo qui a existé. C'est un moment comme ça, c'est une disposition complètement éphémère. Donc voilà, et à Paris, Bernard va inviter Barthes à venir le voir dans son appartement de la Goutte d'Or, où il habite à ce moment-là, notamment avec d'autres amis, avec Jean-Claude Larieux, etc. Et Barthes refuse et diffère à cause de la maladie de sa mère. Et puis finalement, il ne viendra pas. Ils se seront vus peut-être en tout 2-3 fois. Bernard sera aussi lié à partir des années 80 avec quelqu'un qui a été lui-même lié à Barthes, qui est Hervé Guibert, avec qui il va être un ami assez proche, hein, Guibert, pour le coup. Il y a un livre qui s'appelle « Voyage avec deux enfants » de Guibert, qui raconte aussi un voyage un peu fantasmé avec Bernard, qui a eu lieu réellement, mais qui est réécrit par Guibert. Et puis ils vont publier ensemble, notamment dans l'autre journal, où Guibert va publier une lettre qu'il avait reçue de Barthes. Ils vont publier une série qui s'appelle Les Enfants Extraordinaires, où Bernard fait les photographies et Guibert fait les entretiens. Voilà, fin du lien avec Barthes. Donc finalement, voilà, il n'y a que cette série qui a pu voir Barthes et la relation s'arrête là. Donc elle n'est pas non plus extrêmement nourrie. Hein. Après la série du coup des Grandes Vacances, qui va très vite lui assurer une célébrité, notamment à New York, Bernard va montrer ses photographies à Léo Castelli, ce qui est un grand galeriste new-yorkais, et il va faire une expo chez Castelli, etc. Donc Bernard entame à ce moment-là une seconde série, à partir de 81, qui va s'appeler « Évolution probable du temps », donc qui, cette fois-ci, abandonne les mannequins pour des mises en scène qui sont plus débarrassées comme ça, où le corps vient s'inscrire, mais de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus limbique, hein, sur les bords de l'image. Voilà, ça c'est par exemple une très belle photo qui s'appelle « La chambre qui brûle ». La falaise. La fenêtre. La maison en feu. Les étendoirs. Les mandarines. Les petits cailloux blancs. Les phares. L'apparition, c'est son frère Pierre. L'automate, la scène, sans S. La chambre des images, la cité Saint-Michel, la fête dans l'île. La gitane, la terrasse. Vous voyez, il y a parfois comme ça quelques personnages qui sont sur les bords de l'image. La vie éternelle, le jet d'eau, le petit canif. Le pré, chambre nature, le verre d'eau sucrée, les ballons, les genêts, les jambes pendantes, les linges, les ombres chinoises, les pastèques, les petits bateaux et Michel, mon petit chéri, qui est une photo qui annonce une série qui viendra 10 ans après, qui s'appelle Les Écritures, la boule de feu, qui est aussi une des photos les plus célèbres, et le pré. Je précise, parce que c'est peut-être pas forcément évident, que les effets spéciaux ce qui apparaît, tous ces effets pyrotechniques, sont évidemment créés in situ, hein. Ils sont pas rajoutés après par des trucages ou tout ça. La photo est, il y a une mise en scène concrète et puis la photo est prise. Bon, là pour la boule de feu par exemple, c'est une boule de tissu, une grande boule de tissu qui était enflammée, qui était accrochée à un fil avec un dispositif au-dessus et puis qui était enflammée au moment où la photo était prise. Donc voilà, à ce moment-là, dans cette série, hein, le paysage prend plus d'importance, les mannequins et les corps apparaissent moins, il y a toujours des situations, hein, des scènes, mais elles deviennent plus irréelles encore, plus météorologiques, comme si le corps premier était noyé dans le paysage. On y voit des jeux étranges, des énigmes, des diagrammes, les dispositifs se complexifient, ils deviennent à la fois plus abstraits et plus éclatés. Donc cette évolution qui va vers une absence du sujet premier, vers une mise hors champ du corps, s'investit encore plus dans la série suivante, qui s'appelle « Les chambres d'amour ». Alors, on pourrait y voir comme un lien vers la chambre claire. Bernard, que j'ai interrogé, ne le pense absolument pas. Il a lu évidemment « La chambre claire » à sa sortie. Et c'est un livre qui ne l'a pas du tout inspiré, puisqu'il considère que c'est un... Voilà, c'est un livre qui ne parle pas du tout de la photographie de création, qui ne concerne pas la photographie de création. Par contre, quelque chose qui l'a inspiré à ce moment, puisque cette série commence en 84, c'est ce qui est assez étrange quand on connaît Bernard, c'est l'amant de Marguerite Duras. Donc cette espèce de scène justement au creux d'une chambre où l'amour serait enfermé comme ça. Et donc il y a cette série des chambres d'amour qui est annoncée par quelques photos précédentes hein, de l'évolution probable du temps. Donc elles sont numérotées, et certaines ont des titres, pas toutes. Alors, voilà. Ça c'est la cinquième chambre d'amour. La septième, le miroir de lait. La première fois, c'est la huitième chambre d'amour. La neuvième, qui s'appelle les braises. La onzième. La douzième. La treizième. La quinzième. La seizième, la chambre du pharaon. La quatorzième, la tempête de sable. La dix-septième, qui s'appelle fièvre. La dix-huitième, sueur. La dix-neuvième, le bouquet de tatier. Plusieurs photos s'appelleront comme ça. La quinzième, chambre à la mer. Et après, il va y avoir une autre série qui vont être plutôt les chambres qui sont pas forcément numérotées. Il y aura une série qui va devenir la chambre en hiver, et puis ça va encore évoluer. Ça, c'est la chambre d'Asie, la dernière chambre d'amour, extérieure chambre d'amour, la chambre vide. Ça, c'est la première chambre d'amour, la quatrième chambre d'amour. Épiphanie, encore le bouquet de tatier. Voilà une chambre en hiver, le fantôme, la chambre en hiver, qui est aussi une des photos les plus connues de Bernard. Feu, chambre d'amour, la cabane de paille et la forêt. Donc cette série, à partir de 1987, où Bernard va découvrir l'Asie bouddhiste, va évoluer avec de l'or qui va s'ajouter aux photos. Donc il découvre cette tradition de l'or dans le bouddhisme, notamment dans l'Asie du Sud-Est, et il va intégrer ça dans ses photos, ça va donner lieu à la série des chambres d'or. Donc ça, c'est la chambre d'or numéro 2, la chambre d'or, la chambre des druides, qui va vraiment disposer des feuilles d'or mates dans des environnements comme ça, des chambres, la chapelle ardente, la coupole d'or, la muraille d'or, la naissance du caramel, la silhouette de lumière, le brasier d'or, les filets d'or, le petit Bouddha, les moulins d'or, le rocher d'or, et le chêne d'or. Donc l'or, moi, je dirais que les chambres d'amour, hein, ces chambres plus ou moins évidées, où se déroulent des drames ou des scènes limites, sont comme des boîtes à durée, pour reprendre ce que Barthes pouvait dire dans la chambre claire. Il parlait des appareils photographiques comme des horloges à photographier. Il me semble qu'il y a quelque chose dans ces chambres évidées où s'est déroulé quelque chose, qui sont à la fois un peu des hétérotopies, des hors-lieux, des hors-temps, des espèces de boîtes à durée qui viendraient enclore quelque chose. Et Bernard pense justement que cette série des chambres d'amour aurait peut-être celle qui aurait le plus intéressé Barthes, s'il avait pu la voir. Donc plus qu'un tombeau de l'amour, hein, je dirais plutôt que ces chambres sont comme des moules, hein, où l'intériorité devient comme une seconde peau. On voit des murs fissurés, des tachés, délavés. Hein. C'est comme si la peau des vrais corps était venue s'inscrire dans les murs même. Et c'est pour ça qu'après, quand l'or arrive, il vient accroître cette espèce de matité, hein, où le détail se fond comme ça dans une espèce de couche enveloppante de l'or. Hein, l'or devient aérien, presque transparent, il commence à disparaître comme ça, il devient cette espèce d'indéfinissable, ou ce que Lacan pourrait appeler l'agalma, hein, je pourrais en reparler plus tard. Donc j'accélère un peu parce que c'est vrai sinon je vais pas pouvoir parler de Barthes. Donc après cette série en 1989, en fait Bernard va mettre en place une nouvelle série qui est vraiment un tournant dans son œuvre à mon avis, qui est une série qui s'appelle Les Idoles et les Sacrifices, une série qui vient scinder en deux tout ce qui se présentait conjoint dans les œuvres précédentes. Je dirais comme si l'or, devenu radioactif, s'était divisé, hein, entre les corps glorieux et le paysage. Donc le corps devient cette espèce de pur support de lumière. Hein. Donc il va y avoir vraiment deux types de photographies, des jeunes garçons, des enfants, adolescents, plaqués comme ça contre un mur, avec une lumière très très aveuglante, c'était des grands feux de Bengale extrêmement puissants sur eux, qui sont photographiés vraiment comme ça, directement pris dans cette espèce de lumière extrêmement aveuglante. Et puis de l'autre côté, des paysages noyés dans la couleur rouge. Donc voilà une idole. Donc ils ont les prénoms, hein, ils ont leurs prénoms. Et là, un des paysages s'appelle La Porte de Mycène. Et donc ces deux séries se font face, c'est à la galerie Yvon Lambert à Paris. Il y a une sur un mur, il y a la série des idoles, sur l'autre il y a la série des sacrifices. Et là, l'aspect religieux qui était à la fois présent et un peu dénié dans les œuvres vient là se révéler assez massivement. Donc La Porte de Mycène. Donc il y a, et c'est aussi une série, je dirais, elle est un tournant dans l'œuvre de Bernard parce que c'est une des séries les plus professionnelles. Aussi. C'est le moment où on n'est plus dans les grandes vacances où on faisait aussi avec ce qu'il y avait sur le moment, qui était une série plus contingente. Hein. Là, il y a vraiment un casting qui est fait, on recrute des modèles, une partie est faite à Marrakech derrière un mur, ce mur est reconstitué par un décorateur après à Paris pour qu'il y ait une espèce comme ça d'égalité entre les photos. Mais du coup, il y a un travail beaucoup plus précis, beaucoup plus et en même temps beaucoup plus plat, quoi, où il ne reste plus qu'un seul objet à chaque fois. Hein, on n'est plus dans une profusion de détails, de petits comme ça punctum qui peuvent parcourir les photographies, mais dans une photographie qui est monumentale, qui justement va viser quelque chose d'étal. Hein, et avec où le corps devient ce pur support de lumière, hein, puisque les modèles doivent supporter un rayonnement lumineux très fort, d'où cette espèce de regard à la fois absent et puis très difficile à tenir. Et puis de l'autre côté, le paysage va être, donc ça c'est la neige, va être noyé dans le rouge qui va investir comme ça des régions du paysage. Donc là la mer, le rocher, les sillons, les coquelicots, encore la neige, le bassin, les flaques, le petit arbre. Voilà. Et donc à partir de cette série, il me semble qu'il y a comme un point limite qui est atteint, où la division se fait. Voilà, on ne peut plus être dans la représentation. On ne peut plus représenter les corps. On arrive à un corps qui n'est plus vraiment le corps humain, quoi, qui devient une espèce de corps glorieux. Hein, c'est pour ça le terme d'idole. Et donc la série suivante va prendre une complète autre voie. En fait, l'œuvre va se scinder en deux séries. Il reste seulement deux autres séries, donc les Écritures, celle-ci, où là, c'est le paysage qui va être investi avec des phrases sculptées dans le bois qui vont être intégrées dans le paysage, des paysages un peu de partout dans le monde, hein, mais qu'on ne peut pas situer, qui sont dans lesquels il n'y a aucune présence humaine. Donc il y a une disparition comme ça du corps, et puis justement l'écriture, donc c'est sans doute une série qui aurait peut-être intéressé Barthes aussi pour ça, l'écriture vient s'intégrer dans l'image. Et toujours de manière absolument concrète. Et après cette série, la dernière série que Bernard va faire en 93 s'appelle La fin de l'image, donc ça c'est la série des Écritures, et là c'est plus sur des paysages, mais c'est sur des paysages intimes, c'est sur des peaux, mais dans des endroits justement qu'on ne peut pas vraiment localiser, hein. C'est très près de la peau, et pareil des phrases écrites avec une encre blanche. Voilà, quelque chose d'extrêmement léger. Et là, le format change. Vous voyez qu'on n'est plus dans le format carré du 6-6. Hein. Ce sont des photographies qui sont assez petites quand elles sont exposées, alors que les autres photographies sont des grands frissons à peu près comme ça. Là, on est dans des photographies qui font à peu près cette taille, qui sont dans des petits cadres noirs et qui sont montrées presque, je dirais, comme des livres, quoi, qui font presque la taille d'un livre ouvert. Voilà, un peu cette taille-là. Et donc, là, on n'est plus du tout dans le format carré, mais dans autre chose. Une autre appréhension. Et donc cette série assume une espèce de fermeture comme ça, hein, qui vient clore, qui vient à la fois reprendre, si vous voulez, qui vient en écho de la série des paysages, qui vient en écho de la série des idoles et des sacrifices, mais où on arrive quand même à une espèce de fermeture de l'image sur elle-même. Donc voilà pour l'œuvre de Bernard. Et donc à partir de ce moment-là, Bernard décide que son trajet dans la photo, c'est ce clos, s'achève là-dessus. ne voit pas quoi faire, il ne voit pas se répéter ou recommencer des choses qu'il avait déjà mis en place, hein, parce qu'évidemment on attend toujours de lui qu'il fasse encore des choses avec les mannequins, etc. Mais il finit par se débarrasser, il vend tous ses mannequins à une société japonaise de mannequins, puisque Bernard a un gros succès au Japon, et qui du coup achète tous les mannequins de photographier dans ses photos et les met dans un espèce de musée des mannequins, je ne sais plus dans quelle ville japonaise. Donc pareil, vous voyez, il y a cette espèce de compulsion de faire disparaître ce qui a été. Hein. En 2005, la date où ce livre a été édité, Bernard a eu une grande rétrospective à la Maison européenne de la photographie à Paris. Il avait tout le bâtiment pour lui. Et dans une des pièces de ce bâtiment, il y avait un endroit qui s'appelait le Cabanon, qui était où il avait reconstitué son cabanon provençal avec des tonnes d'objets qu'il avait depuis très très longtemps, notamment un lit, le lit de ses parents, il y avait des couverts, il y avait des choses comme ça. Et à la fin de l'exposition, pendant 2 jours, il donnait tout ce qu'il y avait dedans. Et donc tous les objets ont été distribués aux visiteurs qui voulaient bien les prendre. Donc voilà, c'est toujours ce désir aussi de brûler, hein, ce qui a pu être, d'accroître comme ça de ce vide intérieur. Donc je vais revenir, je vais essayer de pas trop parler sur la question sur Barthes. Et essayer de m'interroger sur cette question. Donc pourquoi Barthes, enfin comment Barthes a pu s'intéresser à la photographie sur cette question de l'ontologie, qui est ce qu'il écrit à Bernard Faucon, hein, dans la première lettre. Hein. Je vous le rappelle. Pour moi, c'est ontologiquement, si vous me permettez ce mot, dans la photo même, dans la limite qui en dit l'être, la fascination. Et donc, j'ai, en relisant un petit peu les textes de Barthes sur la photographie, j'ai essayé un petit peu de naviguer comme ça sur cette question de l'ontologie. Donc cette question de l'ontologie, elle se retrouve aussi dans l'article sur Richard Avedon, qui s'appelle « Tell », où Barthes dit la chose suivante « Regardez une photographie d'Avedon, vous y verrez en action le paradoxe de tout grand art, de tout art de grande race. L'extrême fini de l'image ouvre à l'extrême infini de la contemplation, de la sidération. Cette sidération, cette contemplation sont liées par Roland Barthes à une force affirmative de la photographie. Les photos d'Avedon montrent, font exister les êtres tels, dit Barthes. Je le cite, « Si j'étais photographié par Avedon, ajoute-t-il, je n'aurais enfin aucune envie de juger mon propre corps, avec l'image duquel, comme tout un chacun, j'entretiens des rapports épineux. De me trouver trop ceci, pas assez cela. Mon corps s'entêterait à être, à persister. » Barthes fait ce constat de manière semblable devant des photos de Daniel Boudinet. Il dit « D'ordinaire, la photographie affirme. Ici, elle produit la paix. » Chez ces deux photographes, il y a donc cette faculté d'une persistance simple des corps ou des paysages qui apparaissent délestés des détails signifiants, la physionomie ou les codes naturalistes. Une présence suffisamment forte pour se suffire à elle-même et court-circuiter le jugement qu'on peut porter sur elle. Les photographies, et avec eux alors leurs producteurs, les photographes, qui intéressent Barthes, échappent à un clivage référentiel entre photographie d'art, à référent culturel, et photographie de reportage, à référent illusoire, naturel. C'est, je le cite Barthes, c'est une ligne de crête entre deux abîmes, celui du naturalisme et celui de l'esthétique. On est ici dans la chambre claire. Entre ces deux abîmes, entre le naturel et l'ornemental, une troisième voie se dessine, la photographie du troisième sens, sens obtus, persistant, que Barthes avait pu théoriser autrefois dans quelques photogrammes d'Eisenstein, dans un article pour les Cahiers du cinéma. Dans ces photos qui font appel à ce troisième sens, l'objet miroite, hein, ce que j'ai appelé tout à l'heure avec Lacan, l'agalma, hein, un terme que Lacan reprend du banquet de Platon, c'est cette espèce d'objet qui attire l'œil, qui miroite, qui a cette brillance. Le troisième sens a la matité de l'objet du désir, propre à l'évidence et à la suspension du sens. Lorsqu'à la fin des années 70, Barthes s'intéresse à nouveau frais à la photographie, pour déclarer aussi, autour des tours de ses articles, qu'il faudra en produire la théorie, ce qu'il se propose de faire contre une théorie du cinéma et contre celle de la bande dessinée, notamment dans l'article de Richard Avedon. L'intérêt de Barthes pour la photographie est principalement un intérêt ontologique. La photographie le fascine car elle a, par la grâce de sa reproduction mécanique de la réalité, cette étrange faculté de représenter à l'identique son référent réel, tout en pouvant exprimer par ailleurs un ensemble de signes faisant preuve d'un travail esthétique ou d'une volontaire ambition herméneutique. La photographie l'intéresse comme un domaine encore vierge de théorisation et surtout comme un support où, dans quelques cas, se neutralisent les signes au profit de l'apparition. Donc si la photographie a quelque chose à voir avec l'ontologie, ce qui travaille dans le réel et ce qui échappe à la saisie du sens, cette ontologie de la photographie, il me semble que chez Barthes, elle est très particulière et elle est très éloignée de la métaphysique platonicienne. Elle se retrouve plutôt proche d'une conception ironiste, wildienne, d'une seconde nature. Bien résumé par la formule célèbre de l'écrivain, la nature imite l'art. Une formule que le philosophe Alain Roger nommera pour sa part et à partir de Wilde, l'artialisation. Je reprends cette référence à Roger de Hervé Joubert-Laurencin, qui lui-même y fait référence dans ses articles sur le critique de cinéma André Bazin. Bazin étant lui-même l'inventeur, pour ceux qui ne le savent pas, du réalisme ontologique, de la photographie, mais Bazin est le théoricien de, quand même un théoricien du cinéma. Mais son premier article porte sur s'appelle « Ontologie de l'image photographique ». Donc Roger récupère cette notion d'artialisation de Charles Lalot et il l'intègre à la question du paysage. Le travail de Roger, c'est sur le paysage. Il explique la chose suivante. Il y a deux façons d'artialiser. Prenons l'exemple du paysage. La première opération consiste à inscrire directement le code artistique dans la matérialité du lieu. On artialise in situ. C'est l'art millénaire des jardins paysages. L'autre manière est indirecte. On artialise plus in situ, on agit sur le regard, on lui fournit des modèles de vision, des schèmes de perception et de délectation. On artialise in visu. On anticipe la perception et plus généralement l'expérience collective. Ainsi, si la vie imite l'art, c'est parce que l'art anticipe et artialise la vie. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une espèce de répétition du simulacre, mais plutôt dans quelque chose qui vient précéder la perception et la préparer avant qu'elle soit perçue. Donc c'est ça l'anticipation qui est liée au procédé de l'artialisation. Roger relie aussi le processus d'artialisation à l'esthétique proustienne. Et il me semble que la chambre claire n'est pas éloignée du roman proustien. Les photographies de Bernard Faucon procèdent dans leur fabrication d'un désir similaire d'artialiser le paysage, de le mettre en scène pour un regard. Le meilleur signe de cette manière de faire est la disparition, je dirais le plus souvent, d'une échelle de grandeur des photographies. On ne sait pas quelle taille fait le paysage, comme sur la photo de Gulliver ou même la photo des Écritures, où finalement la question de l'échelle humaine n'est pas présente. On ne peut pas se situer géographiquement, mais on ne peut pas non plus se situer par ordre de grandeur. On est justement dans un espace qui échappe comme ça à la topographie. Et c'est en œuvrant sur le paysage que Bernard Faucon assume le mieux cette manière d'artialiser, en s'attachant à ce qui est a priori la part, l'environnement le plus naturel. Quoi de plus naturel que la nature? Et c'est aussi, comme Barthes l'explique dans un article sur Daniel Boudinet, le travail qui est fait par Boudinet. Hein. Vouloir ruiner cette première naturalité pour mieux exprimer une seconde, faire la fête au paysage. C'est aussi ce qui se retrouve donc du coup à toutes les étapes de l'œuvre de Bernard Faucon. Les grandes vacances, où le paysage est installé par des petites foires, des banquets éphémères. Évolution probable du temps, où ce sont les qualités du paysage même qui se transforment, jusqu'à l'air lui-même. Il y a les chambres qui vont aspirer et remettre en scène des espaces transformés en paysage, où les écritures et la fin de l'image qui, à travers une échelle abstraite, l'écriture, hein, c'est l'écriture qui devient l'échelle du paysage, font de leur environnement, qu'il soit de cailloux, d'eau ou de peau, un paysage. Barthes se retrouve dans cette observation d'une seconde nature, assez proche d'André Bazin. Je ne vais pas expliquer ici sa reprise un peu déniée par Barthes. Je vous renvoie aux travaux d'Hervé Joubert-Laurencin dans un ouvrage qui s'appelle « Le sommeil paradoxal ». Mais je veux reprendre ici un passage d'Ontologie de l'image photographique, un des premiers articles de Bazin, tel qu'il est cité par Joubert-Laurencin, puisque cet article a été repris et retravaillé par Bazin, qui a lui-même enlevé certains passages. Il me semble que le passage original est intéressant. Cette genèse automatique de la photographie a bouleversé radicalement la psychologie de l'image, ou plus précisément son ontologie. L'objectivité de la photographie lui confère une puissance de crédibilité et par là, une existence absente de toute œuvre picturale. L'image peut être floue, déformée, décolorée, sans valeur documentaire. Elle procède par genèse de l'ontologie du modèle. Elle est le modèle. Dans l'imaginaire de Sartre, livre auquel est dédiée la chambre claire, Sartre expliquait « Le portrait agit sur nous à peu près comme Pierre en personne. » Pierre, le prénom. « Je dis, c'est le portrait de Pierre ou plus brièvement, c'est Pierre. » L'idée de Bazin, si on la comprend par le biais de l'artialisation, entend donc la reproduction ontologique comme une superposition où se conjoignent, confondus, le modèle et sa seconde nature. Seconde nature qui vient en fait prendre les devants et remplacer le modèle, le doubler plutôt que simplement le redoubler, la doublure étant une constante métaphore basinienne. L'ontologie est donc plus qu'une origine essentielle, un double, un masque à l'identique qui vient anticiper l'origine. Il y a une modélisation photographique de son référent réel. C'est en ce sens, je crois, qu'il faut comprendre comment Barthes comprend l'ontologie à ce moment pré-chambre claire, alors qu'il écrit sur Bernard Faucon que l'image est, je le cite, « une unité à peine supportable, contre nature, c'est-à-dire sur-naturelle, sur-naturelle ». Pour Barthes, prendre le parti pour la photographie en tant qu'art ontologique, c'est prendre le parti de l'imaginaire. À Bernard-Henri Lévy, Barthes dit dans l'entretien que j'ai déjà cité « J'ai l'impression que l'imaginaire, c'est un peu le parent pauvre de la psychanalyse. » Coincé entre le réel et le symbolique, on dirait qu'il est déprécié, au moins par la vulgate psychanalytique. Mon prochain livre, donc, qui sera La Chambre claire, se présente comme une affirmation de l'imaginaire. Or, chez Bernard Faucon, selon Roland Barthes, le corps vrai, qui apparaît dans certaines scènes, comme victime, se distingue à peine des mannequins auxquels il est mêlé, fait douter de sa nature charnelle. Ce qui sépare le vrai du factice est d'une ténuité extrême. Trouble. Le vrai ne se cherche pas du côté de la réalité, mais du côté de l'art, conçu non comme valeur expressive, humaniste, mais comme fondement ou accomplissement de l'artifice. Ce qui intéresse Barthes dans les photos de Bernard Faucon, c'est cet écart sensible qui tourmente le désir de naturalité de l'observateur au profit d'une promotion grimaçante de l'artifice. Il n'est donc pas étonnant que cette ontologie qu'on pourrait appeler ironique se retrouve également dans un courant artistique on ne peut plus éloigner apparemment de la platitude réaliste de la photographie, le pop art, dont Roland Barthes dit qu'il est un art de l'essence des choses, un art ontologique. Je continue la citation de Barthes. « Voyez comment Warhol construit ses répétitions, conçues comme un procédé destiné à détruire l'art. Il répète l'image de façon à donner l'idée que l'objet tremble devant l'objectif ou le regard. Et s'il tremble, dit-on, c'est qu'il se cherche. Il cherche son essence, il cherche à placer devant vous cette essence. Autrement dit, le tremblement de la chose agit, c'est là son effaissance, comme une pause. » La faculté ontologique, c'est dans ce qui ruine l'opposition du sujet et de la manière, pour reprendre les termes de l'article sur Bernard Faucon. Et Barthes l'aperçoit chez Faucon dans une certaine immobilité redoublée, presque ironique, des mannequins. C'est la pose de ces mannequins qu'il appelle dévitrinés, qui conduit à simuler dans de vrais paysages un tableau vivant. Je cite Barthes, « Cette scène immobile, il la confie à l'art même de l'immobile, la photographie. » Dit Barthes, qui ajoute, « Bernard Faucon ne photographie pas un tableau vivant, il produit une photographie redoublée en tableau vivant, il accumule deux immobilités. » À propos d'Avedon, Barthes remarquait qu'il fait des photos immobiles, dès lors inépuisables comme objet de fascination. Donc l'essence de la photo, c'est la pose. On parle d'ailleurs de pose photographique pour parler d'une image et on calcule le temps de pose aussi bien pour la prise de vue que pour le développement de l'image sur le papier photo. La pose, c'est ce qui immobilise aussi bien le sujet regardé, il faut tenir la pose devant l'objectif, que le sujet regardant, qui le fascine comme le regard de Méduse, qui est lui-même une des premières poses photographiques, cette statuification. Faucon joue beaucoup de cette immobilité qui vient travailler de l'intérieur les photographies, par exemple pour l'enfant qui vole, que je vous ai montré tout à l'heure. La pose, c'est pourtant ce qui, partout ailleurs dans la vie, est intenable. La photo fait donc tenir ensemble, dans une immobilité conjointe, ce qu'elle capture. Elle solidarise, sur le même plan d'une seconde nature, une scène plate où tout se tient droit, raide. L'opération photographique de Bernard Faucon sous les yeux de Roland Barthes consiste donc à faire se mêler toutes les essences des objets et sujets photographiés pour créer une sorte de zone d'indistinction secondaire, l'intérieur d'une scène qui, débarrassé du modèle premier, du référent, fait bloc dans sa vocation à l'imaginaire. Artialiser l'opération du doublage de l'essence, c'est aussi user du modèle, et le tel, en définitive, c'est ce reste du modèle qui est son déchet, son impureté la plus compacte. Dans un texte sur Cy Twombly, Barthes donne une définition de l'essence, non des parties d'un imaginaire du désir. Qu'est-ce que l'essence d'un pantalon, s'il en a une ? Certainement pas cet objet apprêté et rectiligne que l'on trouve sur les cintres des grands magasins. Plutôt cette boule d'étoffe chue par terre, négligemment, de la main d'un adolescent, quand il se déshabille, exténué, paresseux, indifférent. L'essence d'une chose a quelque rapport avec son déchet, non pas forcément ce qui reste après qu'on en a usé, mais ce qui est jeté hors de l'usage. À Bernard-Henri Lévy, il explique que le déchet, au sens strict, c'est ce qui ne sert à rien, et ajoute « le déchet organique prouve le trajet de la matière qui aboutit à lui ». Le déchet humain, par exemple, prouve le trajet nutritif. Eh bien, l'intellectuel prouve, lui, un trajet historique dont il est en quelque sorte le déchet. Il cristallise, sous forme de déchets, des pulsions, des envies, des complications, des blocages, qui appartiennent à toute la société. Les optimistes disent que l'intellectuel est un témoin, je dirais plutôt qu'il est une trace. Les mannequins de Bernard Faucon, remisés et récupérés, retapés, remis en scène mais sortis de leur fonction de départ, déplacés, sont justement ces sortes de déchets vivants qui attestent d'une trace et font image. Parfois, ces photos font peur, pas à moi, elles ne me font pas peur à moi, mais j'ai constaté qu'elles faisaient peur à pas mal de gens. Justement, sur cette question du mannequin, Barthes lui-même, dans son article, remarque d'ailleurs que le mannequin, l'automate, a toujours provoqué le malaise aussi chez ceux qui l'observaient. Et il me semble que justement, c'est l'essence humaine de ces marionnettes qui menace, c'est l'essence humaine que ces marionnettes menacent, font grimacer. Pour ma part, je dirais que Bernard Faucon met en scène dans Les Grandes Vacances des natures mortes vivantes, qui présentent, pris dans la glu de l'instantané photographique, des êtres limbiques ayant perdu leur référence naturelle au profit d'une seconde nature qui n'a plus de véritable trait de ressemblance, mais plutôt une raideur de posture. Alors justement, cette raideur, Barthes va la relier à la mort. Et il explique notamment dans La Chambre claire que l'horreur de la mort réside précisément dans sa platitude. Et dans La Chambre claire, Barthes va parler, enfin il va créer une image, l'image d'une image condamnée. On dirait que la photographie emporte toujours son référent avec elle, dit-il, tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein du même monde en mouvement. Ils sont collés l'un à l'autre, membre par membre, comme le condamné enchaîné à un cadavre dans certains supplices. Je n'ai pas trop le temps, mais sinon je vous aurais passé l'extrait d'un film, qui est le film dont parle Barthes dans La Chambre claire, qui est le Casanova de Fellini, La danse avec l'automate, qui est une scène extrêmement étonnante, très, très 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 belle, mais comme ça dure un petit peu de temps, peut-être on verra après. Mais alors ici, du coup, puisqu'il y a la photographie et son référent qui sont enchaînés, comme un condamné enchaîné à un cadavre, mais qui joue le rôle du cadavre ? Est-ce le référent ou la photographie ? Qui tient la pose ? Barthes garde vive l'ambiguïté. Il peut affirmer que la photo est comme un théâtre primitif, comme un tableau vivant, la figuration de la face immobile et fardée sous laquelle nous voyons les morts. Mais il peut aussi retrouver directement le modèle, en l'occurrence dans La Chambre claire, sa mère, dans le hors-champ qui sera ménagé par le punctum. La recherche ontologique de Barthes à propos de la photographie tient moins à une recherche dernière de l'être de l'origine, comme on s'en aperçoit, qu'à une fascination provoquée par une difficulté à saisir, y compris au sens culinaire, à cuisiner, à faire prendre à travers l'opération du sens, la photographie, à saisir la photographie. Quelle que soit la manière dont Barthes l'approche, par la distinction entre opérateur, sujet de la photo, spectateur, ou bien par celle du studium et des deux punctum, il en revient toujours à ce constat, la photo est un partage de l'unicité. Elle est à la fois unique et divisée. Impromptue, l'unicité se divise ou se réforme ou se totalise. Seule la mauvaise photo, le mauvais objet plutôt, n'est pas duel. Cette oscillation se retrouve jusque chez l'observateur, dont l'intelligence supplémentaire, Barthes disait le structuralisme, c'est ajouter l'intelligence à l'objet, est mangée par la photo. Barthes, dans une superbe et déroutante formule à la mesure du trouble provoqué, explique « Le punctum, qu'il soit cerné ou non, c'est un supplément, c'est ce que j'ajoute à la photo, et qui cependant y est déjà. » De même, l'instantané, le présent, se divise dans la chambre claire entre histoire, passé et futur, balance en arrière ou en avant. La scène tout extérieure de la photo vient poindre par endroits dans la plus grande intimité de l'observateur. Le cadre unique de la photo, sa tenue, est défaite par une morale du détail, comme le disait Barthes dans les années 60 à propos de Brecht. L'intelligence immédiate, l'éclair de reconnaissance, l'instantané de l'entendement de la photographie par celui qui la regarde, des studiums et des punctums gitants dans les selles photographiques peuvent donner le pas à la dérive imaginative qui va recréer un mode ou renvoyer l'observateur dans des zones du passé. En définitive, l'ambiguïté fondamentale de la nature photographique met à mal jusqu'à l'observateur même. Dans un texte sur Cy Twombly, Barthes trouvait dans le fond de la langue une ambiguïté, je le cite, une ambiguïté précieuse de vocabulaire. Le sujet d'une œuvre est tantôt un objet, ce dont elle parle, ce qu'elle propose à la réflexion, la questio de l'ancienne rhétorique, tantôt l'être humain qui s'y met en scène et qui figure comme auteur implicite de ce qui est dit ou peint. Faucon, pour sa part, évoque souvent, pour parler aussi bien de ses images que de ses relations amoureuses, la claustrophobie. Or, chez lui, la chambre photographique est, je crois, cet instrument de transformation d'extériorité en intériorité. Je reprends les mots de Faucon issus d'un entretien. Dès le début, il y a toujours cette alternance entre l'intérieur et l'extérieur qui sont un peu mixtes. Il y a toujours cette tentation de mettre l'intimité dehors, d'installer des trucs très intimes dans des décors naturels, et inversement, dans des espaces clos, dans les intérieurs, l'envie que l'extérieur fasse irruption. Il y a toujours cette envie de trouver un espace qui soit à mi-chemin entre intérieur et extérieur. Le sujet de la photo, pour Barthes, c'est cette appartenance duelle irrésolue entre l'objet de la photographie et le sujet regardant, qui est en fait regardé par la photographie. Mais le nouveau de la photographie chez Barthes, c'est qu'elle est cet espace indomesticable, une sorte de bête féroce qui mord sur le réel de l'observateur, qui empêche la saisie des signes. Les seules photographies qui intéressent Barthes sont celles où justement une même conjonction imaginaire est à l'œuvre entre celui qui observe et la photo observée. Tous deux font partie de l'image. Ils font image, sont déportés sur le plan de l'imaginaire. Barthes remarque à un point avancé de son récit de la chambre claire « Entrez dans une boîte porno à New York, vous n'y trouverez pas le vice, seulement ces tableaux vivants, dont Mapplethorpe a tiré lucidement certaines de ses photos. » En l'occurrence, le monde réel n'est plus que tenu en image, dans la distance d'une image. Donc il y a comme un déboîtement successif qui ne cesse de se répéter. Une image renvoie à une présence qui elle-même se retransforme en image, qui elle-même se retransforme en présence. Sur le plan de l'imaginaire, il n'y a que des doubles fonds. C'est ce plan de l'imaginaire qui confond les parties du corps de l'observateur avec le corps de l'image. Donner des exemples de punctum, c'est d'une certaine façon me livrer, dit Barthes à son lecteur. Mais c'est aussi une manière de se livrer à l'image. Donc, en un sens, le reconnaît la conclusion de la chambre claire, à la folie. Hein, il y a une espèce... Barthes s'abîme dans la contemplation, il rentre dans des abîmes de contemplation. La folie, pour Barthes, ce serait l'impossibilité de reconduire un travail de l'entendement. Hein, et il dit « aucune analyse ne me serait utile ». La photo implique donc une forme de mutisme et plus loin, un raccord à l'enfance, à l'infance, celui qui ne parle pas. Dans sa nécrologie de Barthes au cahier du cinéma, Jean-Louis Schaeffer évoquait, je le cite, « cette voix calme derrière laquelle, et comme l'objet qu'elle portait, se faisait entendre la très jeune maîtrise d'une enfance ». Il y avait chez cet homme et dans son élocution un savoir d'enfant sur tout le savoir. Barthes évoque pour sa part la photographie comme cet art renversé où, dans le champ de la photo, c'est l'amateur, au contraire, qui est l'assomption du professionnel, car c'est lui qui se tient au plus près du noème de la photographie. Et je définirais ainsi, dans les pas de la lecture barthésienne, la photographie comme cette enfance de l'art, ce redoublement ontologique, innocent et souverain, pour reprendre deux mots accolés de la chambre claire, de celui qui, l'enfant, n'ayant pas de métalangage, coïncide, toute distance abolie, avec ses perceptions. Acte de pensée sans pensée, visée sensible, hein, visée sensible en trois mots, c'est dans la chambre claire, qu'on peut aussi entendre effectivement homophoniquement comme sensible, en un seul mot. À cet endroit de l'enfance, et à cet endroit seulement, coïncide le déport mélancolique du deuil et l'activité jubilatoire de l'imagination, qui s'incarne en l'occurrence dans ce souvenir écran de la mère-enfant. Il est tout à fait frappant que Barthes se soit tant intéressé à une photographie, le jardin d'hiver, qui ne nous est pas montré, dont il ne pouvait en aucun cas faire partie, avoir été le témoin historique. La mère-enfant est celle qui n'a ni mari ni fils encore, qui est moins dans un temps très ancien que hors de toute inscription sociale notamment. arriver jusqu'à cette photographie, arriver jusqu'à cette photographie telle que la chambre claire le raconte, hein, le transforme ce livre en une sorte de Bildungsroman barthésien, une tentative, à mon sens, parallèle au projet proustien et explicitement présentée comme telle parfois, notamment à la fin de la première partie où Barthes évoque une palinodie, hein, sous la forme orphique d'une descente aux enfers. Il va aussi mettre en scène cette évocation du temps à la fin de la chambre claire, le temps avec une majuscule, comme chez Proust. Du temps perdu au temps retrouvé, Barthes, héros de la chambre claire, va débarrasser progressivement la photo du référent et de toutes les références, de celle de l'artiste aux données socio-historiques, pour peau après peau, atteindre à cette sorte de transparence déshabillée de l'imaginaire. Si le vocabulaire s'y fait religieux, résurrection, assomption, je le crois moins véritablement chrétien qu'oraculaire. La photographie est, je cite Barthes, une magie, non un art, par sa manière de voyage dans le temps. La recherche ontologique n'est pas la recherche des origines. En ce cas, Barthes se serait intéressé aux photographies de lui, ni d'une révélation attendue d'une forme de transcendance. Si c'était le cas, elle ne serait pas à ce point rivée au sujet qu'est Barthes et qui en revendique sa privauté. Ce qui est recherché dans le projet ontologique barthésien, c'est la folle formule alchimique d'une recréation de la présence à l'identique. Tout ce que Barthes convoque, de la reconnaissance de l'être-là, de l'automate à la présence charnelle déposée dans la photo par l'intermédiaire des photons pris dans les selles d'argent, vise à reconstruire une présence réelle, celle de sa mère, bien sûr. Cette interrogation sur l'ontologie photographique est donc ici panique, pour reprendre un de ses termes amoureux, urgente au sein du deuil, tandis qu'elle était plus vague avant la chambre claire. Je reprends ma question de départ. Pourquoi la chambre claire ne comprend pas de photos ou de mentions du travail de Bernard Faucon, alors même que ce travail développe, pour sa part, toute une série de thèmes et de pratiques extrêmement proches des intérêts barthésiens, notamment dans ce que Barthes repousse comme négligemment dans l'article qu'il écrit sur Bernard Faucon, l'enfance, la recréation d'un être à photographier. Le propre de la mise en scène photographique, si Bernard Faucon n'en est pas forcément l'inventeur, il est en tout cas l'un des premiers à l'utiliser aussi explicitement, et justement de construire des mondes pour l'œil, non pas saisir du référent, ce qui serait le reportage, ou construire de l'illusion art déjà faite, mais saisir sous le mode de l'événement, un événement essentiellement photographique, une fête de l'image, un temps et un lieu construit spécifiquement pour elle, qui fait jouer à plein sa faculté de recréation ontologique, rivalisant avec les jeux de l'enfance. Cette recréation dans le réel d'un espace de l'irréel, c'est une faculté de jeu qui est très problématique pour Barthes. À mon sens, si Barthes ne peut inclure Faucon dans la chambre claire, alors que tous deux se dirigent vers quelque chose qui tient également de la recréation d'un monde inséparable d'une enfance qui n'est pas la leur, c'est en regard de leur propre conception de l'enfance. Enfance passée pour Barthes, brûlante de présent pour Bernard Faucon. En fait, tout se passe comme si t'étais opéré une sorte de renversement devant l'image. Barthes, au fur et à mesure de son récit de la chambre claire, passe de la position d'observateur, plus ou moins libre de ses mouvements, tenant vive l'intellection de ce qui le meut comme sujet regardant, à une identité de plus en plus flottante, expérimentale, qui va perdre sa qualité d'observateur au profit d'une seconde qualité d'observer. Dans un premier temps, hein, Barthes évoque dans certains articles aussi sa position de sujet de la photo, il est pris en photo, photographié par quelqu'un. Mais à la toute fin du livre, je dirais qu'il n'est pas celui qui regarde une photo ou qui est regardé, mais il devient le photographe. Hein, il est devant le référent en tant que photographe. Face à l'image du jardin d'hiver, il se place dans la distance photographique, directement dans la scène. Le ça a été de la photographie, lorsque par la vertu du second punctum, hein, ce punctum qui est celui du temps, et que la photo devient le c'est ça, c'est la posture du photographe, un photographe amateur, promis innocemment à l'ontologie, qui est acquise. Il fait poser sa mère, il stabilise sa mère pour la capturer tout entière dans une image. Or, Bernard Faucon, au contraire, est plus qu'un photographe de l'instant, c'est un spectateur de la vie. Il construit l'image pour le regard. Le réel des moments présents va poindre dans une image, s'incarner pour elle et ne laisser aucune trace dans les paysages. Bernard Faucon va saisir l'essence d'une seconde nature, en ce sens, il est le spectateur de cette nature. Face à l'enfance, Barthes et Faucon sont également dans une posture différente. Faucon est un adulte qui met du jeu, à tous les sens du terme, du ludique et de l'écart, entre lui et les enfants qu'il met en scène. C'est ce jeu qui fait prendre consistance à l'image et qui, par la division, tient ensemble la scène. Le jeu est la nécessité première de la photographie, dans la vie surtout. Une photo ne peut exister que par le groupe qui la fait naître, même si Faucon en est le seul maître d'œuvre, le seul anticipateur de cette fête de l'image. Bart, au contraire, veut tout à fait oublier qu'il est cet adulte consciencieux face à la disparition de sa mère. Bart est l'enfant de sa mère, il est doublé par sa mère enfant, et tient à réduire le plus possible tout jeu entre lui et l'enfance. Ce jeu qui était auparavant, pourtant, cette marque de sa propre intellection et de sa propre liberté de penser. Il lui faut être joué, il faut être dupe. Bart ne peut accepter dans la photographie que ce qui ne joue pas, que ce qui est propre à être joué, rejoué ou déjoué. C'est la raison que j'aperçois pour l'exclusion de Bernard Faucon, mais aussi l'exclusion plus généralement de la photo de création. Le champ de la création est réservé au seul sujet regardant et regardé. C'est pourquoi la chambre claire me frappe par son rapport tout particulier au récit, que je vois proustien, qui est déployé. Pour une fois, la fragmentation barthésienne devient 2x24 temps de pause. Hein, on se souvient, dans les pellicules photographiques de l'époque, il y avait 24 pauses. Bon, c'est Hervé Joubert-Laurencin qui remarque ça. Et ces fragments ne peuvent être lus que dans l'ordre de leur déploiement. Il y a quelque chose du roman d'apprentissage. Si Marcel devient écrivain, selon le mot de Gérard Genette, peut-être qu'ici, Barthes devient photographe, un vrai photographe amateur. Alors que Barthes fabrique un souvenir écran, écran au deuil, écran au présent, Faucon ne cesse de dire « quel beau souvenir je me prépare ». Dans les deux cas, la photo fait écran à la vie même, mais de manière radicalement différente. Or, dans la série des idoles, l'idée était de montrer, dit Bernard, la plus grande beauté, d'attester, de la prouver par la photographie, sans trucage, sans phare. À ce moment, que Barthes n'a pas connu, Faucon opère un renversement de sa conception photographique, qui fait basculer la photographie dans une capture de l'essence par excellence, la beauté. C'est aussi le moment où il entre le plus dans une forme professionnelle. Il recrute des modèles, etc., ce que je vous avais dit, de l'amateurisme presque revendiqué d'une photo, extension, aboutissement de la vie. C'est à ce moment qu'une forme religieuse, mais païenne, refait surface. C'est aussi le moment où l'unicité est visée le plus explicitement, le sujet y apparaît débarrassé de tout oripeau, solus, pauper et nudus, où le corps est forcé de révéler, sous l'éclat aveuglant du feu, son caractère inhumain, divin. Faucon a toujours composé des images faussement simples. Le chromo et sa fonction édifiante ne sont jamais loin de ses photographies. C'est la part la plus chrétienne de son œuvre. La série des idoles abandonne le détail au prix de la totalisation, mais fait de l'évidement le plus grand de la photo. La photo ne regarde plus, elle est, comme les modèles aveuglés par la lumière, aveugle, entièrement. Elle n'est plus une seconde nature, mais le constat d'un « c'est ça ». C'est à ce moment que Barthes et Faucon pourraient se rejoindre, à mon sens. Et je termine là, un peu tard. Thank you.